Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Chateaubriand épinglé. À son retour des migrations, Chateaubriand rendit visite à Paul-Louis Guinguené, un proche de sa famille et lui-même auteur de plusieurs essais historiques, qui lui demanda quelle partie il allait prendre dans sa future carrière littéraire. « Je serai monarchiste et religieux », aurait répondu Chateaubriand. Et Guinguené aurait répliqué « Vous serez littéralement bizarre et politiquement faux ». Cette anecdote a été rapportée dans un petit ouvrage au titre bizarre « Chateaubriandiana » ou « Recueil de pensées, maximes, réflexions », imprimé en 1820. Son auteur, Charles-Yves Cousin d'Avalon, n'aimait pas Chateaubriand et suggérait de mettre cette anecdote en tête de ses œuvres complètes pour offrir en même temps le poison et le remède. En près de 350 pages, dans un petit format il est vrai, d'Avalon s'acharne insidieusement contre l'auteur d'Atala. Il note par exemple à son propos « Atala est une sorte de poème qui ne diffère d'une foule d'autres pièces en vers que par le défaut de rime. » Et comme si le trait ne suffisait pas, il ajoute « Il est moitié descriptif, moitié tragique, moitié comique, moitié etc. » Dans sa préface, Cousin d'Avalon assure que s'il est permis de citer des passages du Monsieur de Chateaubriand où la raison et le goût sont quelquefois outragés, ce n'a point été par haine, par envie, mais dans la seule vue de prémunir la jeunesse contre ces idées gigantesques, ces comparaisons bizarres, cette passion ridicule du désert, ces rapports inconnus et ces élucubrations métaphysiques qui font tâche dans des productions qui étincellent de beauté de premier ordre. En bref, M. Cousin d'Avalon faisait œuvre de salut public. Qualifié de compilateur, il n'avait, paraît-il, pas de vocation réelle, mais il était un travailleur infatigable, s'occupant d'histoire, de romans, d'économie domestique, de facétie, etc. Il était aussi spécialisé de ce que l'on a appelé les annas, ou recueils d'anecdotes, de pensées, de bons mots attribués à un personnage célèbre. Il existe une bibliographie des annas, français et étrangers, qui fut établi par un certain A.F., je n'ai pas son prénom, Aude, dont nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'il a également publié un livre de généalogie. Sa femme et ses deux filles ont par ailleurs été portraiturées par Mary Cassatt en 1899, ce qui laisse supposer que M. Aude avait du goût et appréciait la peinture contemporaine et les impressionnistes. Quoi qu'il en soit, il était un lettré consciencieux, selon le mot du baron de Portalis qui préface son étude. L'origine des annas est fort ancienne. Les symposiaques de Plutarque, les mémorabilia de Xénophon, les lunes antiques de Lugel peuvent être considérées comme des prototypes du genre. Aude cite parmi les ouvrages les plus anciens qu'il ait rencontrés portant la désinence anna, le Bibliana qui date de 1509, le Corsiana en 1514, le Grobiana en 1549, le Martignana en 1606, des recueils de pensées ou de bons mots. Pierre Pitou serait le premier à avoir employé volontairement cette dénomination pour un recueil intitulé Piteo Nana. Et le premier ouvrage qui a été donné au public sous le nom d'Anna est le Scaligerana, imprimé en 1666. Ce fut le début d'une période brillante qui vit éclore les Managiana, les Carpenteriana, les Sorberiana, etc. Lamennais, dans sa préface du Segresiana, ou mélange d'histoire et de littérature recueilli des entretiens de M. de Segré de l'Académie Françoise, des égologues et l'amour guéri par les temps, tragédie ballet du même auteur non imprimé, ensemble, je cite le titre, ensemble la relation de l'imaginaire et l'histoire de la princesse de Paphlagonie, imprimé en 1646 par l'ordre de Mademoiselle, imprimé à La Haye, donc, chez Pierre Grosse en 1722. Lamennois, donc, décrit l'Anna idéale. Ces sortes de recueils seraient très dignes de notre curiosité s'ils répondaient à l'idée que nous avons coutume de nous en faire. Nous nous attendons à y trouver des bons mots, des traits singuliers, des réductions, des corrections de passages jusque-là désespérés, des petits contes originaux, de fines anecdotes, quelques épigrammes bien tournées. C'est là ce coin que les bons annas doivent, ce que me semble, être frappés. Dans l'histoire des Anas, tout devait changer en 1722. Adieu le sérieux, bonjour les décadences. Pensez. L'abbé Claude Cherrier publia un Polissoniana qui fut qualifié de recueil à l'usage de la canaille. Pire, on trouve aussi un Grivoisiana et un Poissardiana et même un, osons le dire, un Anna. En fait, nous avons recensé cette édition de ce M. Anna entre 1803 et 1870. Le seul Anna qui tire, si l'on peut dire, son épingle du jeu est l'Arnoldiana et l'Anagrameana. Selon Aude, les nombreux Anna publiés de 1730 à 1830 méritent à peine un souvenir. Des auteurs comme Armand Gragnot, de La Chesnaye, Simon Bloch et Cousin d'Avalon devinrent, dit-il, en se fondant sur une expression puisée dans la grande encyclopédie, les fabricants attitrés de ces petits livrets qui faisaient inévitablement naître la pièce en vogue, le livre à succès, le personnage du jour. Il est vrai que Cousin d'Avalon composa encore un Genlisiana, ou recueil d'anecdotes, bons mots, plaisanteries, pensées et maximes de Madame la Comtesse de Genlis, précédé d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, imprimée à Paris en 1820 par la librairie politique. Et aussi, un Rivaroliana, ou recueil d'anecdotes, bons mots, sarcasmes, réparties, satires, épigrammes et autres pièces peu connues de Rivarol, avec des notes et éclaircissements précédés de la ville d'auteur, toujours à Paris en 1812, mais chez Davy et Locard. Cousin d'Avalon faisait feu sur tout ce qui avait quelque notoriété. Car enfin, comment apparier cette bonne Madame de Genlis, qui était née Félicité Ducret de Saint-Aubin, et dont nous reparlerons, avec l'apologue de la langue française Rivarol, né Antoine Rivaroli, surnommé le Tacite de la Révolution. Il est vrai que tous deux furent éclairés par l'actualité de l'époque, la première en compagnie du duc d'Orléans, vous savez, celui qui par une seule voix condamna à mort son cousin, et le second pour avoir violemment traité la cour, les assemblées et leur concert de bêtises. Au moment de la publication de ce Chateaubriandiana que nous évoquions plus haut, Cousin d'Avalon annonçait la parution d'un Boldaniana, qui devait faire pièce à Louis-Gabriel de Bonald, un philosophe social. Et puis, un Fontanesiana, qui devait épingler Louis de Fontane, l'ami le plus intime de Chateaubriand, et un des Pratiana, qui fait songer à l'abbé de Prat, connu pour ses idées libérales. Ces trois personnages avaient ceci en commun, qu'ils avaient œuvré à un moment ou à un autre pour le retour des Bourbons. Est-ce la raison de la vindicte des cousins d'Avalon ? Thank you.